Paris, 24 heures sur 24 en DAB+, et sur radiocampusparis.org.
La nouvelle bouquinerie.
Bonsoir, il est 20h.
Vous
êtes sur Radio Campus Paris.
Sur Radio Campus Paris.
Une émission, la nouvelle bouquinerie, une émission de littérature et de poésie va commencer. On est ce soir avec Antoine Mouton.
Bonsoir.
Bonsoir Antoine, on est ravis de vous accueillir. Il n'y a pas de générique ce soir, même s'il paraît qu'il a été refait. Donc déjà, on félicite toute l'équipe. Ce soir, on va recevoir un auteur qui aime les mots, qui aime la langue, qui la travaille, qui est là présente en lui. On va parler de son dernier livre, Nom d'un animal. Et on va fermer la fenêtre, hein, parce que sinon les auditeurs ne vont pas du tout pouvoir écouter tranquillement. Antoine, je vous laisse faire le descriptif de cette action.
Oui, bah la fenêtre est en train d'être fermée. Mais on l'entend d'ailleurs, on l'entend bien se fermer. C'est une double fenêtre. Là, je crois que ça y est. Elle l'est.
Nom d'un animal, Antoine Mouton. Comment ça se déplie un nom tout au long d'une vie?
Par exemple, on me dit qu'on porte un nom. Et moi, je me pose cette question de qu'est-ce qu'on porte exactement quand on porte un nom? Et qu'est-ce qu'on fait porter au nom ou au mot qu'on emploie? D'ailleurs, on dit employer un mot, comme on dirait d'une personne qu'on l'emploie. Quelle charge on lui donne et quelle mission peut-être on lui donne, quelle intention on voudrait que ce mot ait. Et moi, je me pose la question, évidemment, pour mon nom, parce que mon nom de famille, qui est censé être un nom propre, est un nom commun et qui désigne à la fois la famille de mon père, mais aussi un animal. Et donc cette chose qui est censée être ce qui me définit dans le groupe des humains, ou définit ma lignée d'une certaine manière, me rattache, de manière au moins imaginaire, en tout cas sonore ou ambivalente, à un autre monde, le monde animal, le monde des moutons. Donc. Et c'est vrai qu'on dit d'ailleurs, dans ma famille, on dit les moutons, pour parler de la famille. Et moi, ça m'a toujours intéressé, cette chose-là, parce que finalement, je ne savais pas exactement à qui je pouvais me rattacher le plus facilement. Est-ce que je me rattache le plus facilement à ma famille ou bien aux animaux? Et ben, en fait, ça, moi, je n'ai jamais trop su.
Jamais trop su. Alors, on va se rassurer, vous savez bien que vous êtes un être humain, pour bien sûr...
Mais un animal aussi.
Et un animal. Moi, j'ai une question. En lisant votre livre et votre langue, on sent. Moi, j'ai senti un rapport de soudeur, en fait. Votre écriture, on a un geste de. La langue, elle est soudée. Enfin, votre geste d'écriture, elle est assez similaire à ce geste-là. Est-ce que ça résonne pour vous, ce regard?
Moi, je ne pratique pas vraiment la soudure, mais quelque chose qui serait de l'ordre de. Du bricolage, mais du bricolage au sens de l'expérimentation, oui. Enfin, c'est-à-dire que j'aime bien essayer de combiner des mots, de lancer par exemple un mot dans une phrase qu'on pourrait appeler comme une soudure, tenter de faire tenir deux choses ensemble en fait, qui n'avaient peut-être pas prévu d'être mises en commun, enfin oui, en rapport ou en relation. Et j'essaye de voir comment ça peut tenir et aussi comment ça ne tient pas. Enfin, moi, ça m'intéresse beaucoup aussi d'être un... Parce qu'un soudeur, il construit. Moi, j'ai l'impression que une partie de mon travail d'écriture, c'est aussi détruire. C'est aussi défaire quelque chose. Défaire des soudures qui étaient peut-être déjà présentes, un peu trop fortes, un peu trop... Aller justement chercher des fabrications et les déjouer. Et les désarticuler un petit peu la langue. Pas seulement l'articuler.
La désarticuler, mais aussi l'inventer, la remembrer. On a le terme en travailler, on a plusieurs comme ça, création de mots. On a une vraie philosophie de la langue, on sent quand même que c'est une langue qui est érudite, elle est riche. Est-ce qu'elle vous permet de déplacer le réel, votre langue?
Alors, déplacer le réel, je peux en faire le vœu, en même temps que j'écris. Je vois bien que c'est quand même comment une arme minuscule, un livre ou un poème. Mais certains livres et certains poèmes y arrivent, d'une certaine manière, arrivent à faire bouger quelque chose. La question, c'est aussi, pour moi, c'est comment... je me sers de ça, je me sers du poème pour me déplacer, moi, par rapport au réel ou par rapport à ce qu'on nommerait le réel ou la réalité, disons, ou le langage. Comment je peux, d'ailleurs, c'est vraiment un livre qui a été pensé de cette manière, c'est-à-dire que j'étais libraire pendant 9 ans dans un théâtre à Paris et puis j'allais quitter ce travail que j'appelais mon travail. Et tout le reste que je faisais, mais pas seulement écrire, je veux dire aussi enseigner, j'appelais pas ça le travail. Alors je me suis dit, tiens, c'est étrange ce qu'on fait justement porter à un mot. Donc je vais me séparer de mon travail, de mon seul travail, de la seule chose que je considère comme étant mon travail, en quittant ce travail. Donc je vais me séparer d'un mot, en réalité. Et pas de la réalité du travail, puisque j'allais continuer à travailler. Et c'est ça qui m'a intéressé, c'est petit à petit, qu'est-ce qui se passe si j'essaye de me priver du mot travail ? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie ? Qu'est-ce qui se passe dans ma langue ? Comment est-ce que je peux, si je ne crois plus au mot travail, si je ne l'utilise plus, si je ne l'emploie plus, si je le mets au chômage, le mot travail, alors qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que je dis ? Qu'est-ce que je raconte de ce que je fais ?
Donc il fallait oser déplacer le réel, et on va oser avec Alain Bashung aussi.
Des monarques et leurs figurines. Juste une paire de demi-dieux. Livrés à eux. Ils font des petits. Ils font des envieux. À l'arrière des dauphines, je suis le roi de ce néant, à qui sourit la vie. Marcher sur l'eau, éviter les péages, jamais souffrir, juste faire hennir les chevaux du plaisir. Osez, osez, Joséphine. Osez, osez, Joséphine. Plus rien ne s'oppose à la nuit. Rien ne justifie. Usez le sourire. Usez, l'usurier. Soyez ma muse. Que ne dure que les moments doux, dure que les moments doux. Et que ne dure. Osez, osez, Joséphine. Osez, osez, Joséphine. Plus rien ne s'oppose à la nuit. Rien ne justifie. Osez, osez. Osez, osez. Osez, osez, Joséphine. Osez, osez, Joséphine. Plus rien ne s'oppose à la nuit. Rien ne justifie.
Osez, Joséphine. Ce soir, on est avec Antoine Mouton. On parle de son dernier livre, Nom d'un animal, édité aux éditions La Contre-Allée. On va rentrer un peu plus dans votre univers, dans l'univers du livre. Est-ce que d'ailleurs le mot « univers », c'est quelque chose qui s'y est à ce nouveau recueil ?
Univers, ben... en tout cas, moi, je ne l'utilise pas quand je fais un livre, quand je construis un livre. Je ne me dis pas univers, peut-être monde. Peut-être que je peux penser à un monde, mais un monde fait de mots, parce qu'il y a quand même toujours cette tentation quand on écrit, quoi. Enfin, cette impression, en tout cas, de tenter de construire quelque chose qui ressemblerait, pas forcément qui ressemblerait, mais qui serait quand même une image de la réalité ou une image du monde, mais un peu ailleurs, un peu décalé, un peu autre.
On l'a évoqué un petit peu en se voyant avant l'émission. Il y a comme un passage quand même dans ce livre. Vous évoquiez, vous, une notion d'absent jusqu'à la présence. Donc, qu'est-ce qui va apparaître pour le lecteur ?
Alors ça, oui, par contre, c'est-à-dire peut-être que je ne construis pas un univers, mais je construis des mouvements à l'intérieur du livre. Il y a vraiment des lignes dedans, des passages en fait, des transformations qui se font, que je vois apparaître au fur et à mesure de l'écriture. Et bon, déjà, il faut dire que le premier poème, qui s'appelle « Nous étions chez des gens absents », parle de l'absence. Et puis ça finit sur un dernier poème qui parle de gens présents à une soirée. Et donc oui, c'est vraiment un passage de l'absence à la présence. Il faut savoir que le premier poème, il est tombé d'un autre livre. C'est-à-dire que je l'avais écrit pour le livre précédent qui s'appelle HKZ, qui a été publié chez Ypsilon. Et puis, au moment de constituer le livre, j'ai oublié de le mettre dans le livre. Et ça m'a intéressé cette chose-là, parce que je me suis dit, mais oui, il me donnait comme une sorte de... Ce poème tombé du livre précédent, que j'ai oublié de mettre, il me donnait comme un indice pour la suite. Ça allait être ça mon point de départ. Ce que j'oublie, ce que je perds, ce que je manque, alors ça c'est le point de départ, c'est un point d'assise et c'est une note. Ça allait être... C'est un livre vraiment sur la question du travail, et pourtant je tenais vraiment à commencer sur l'absence. Et parce que et les fantômes, et les personnes qui ne sont pas là, et la vie, d'une façon plus générale, pas par volonté, disons, métaphysique, mais vraiment pour donner l'idée que parfois quelque chose peut se perdre. Un poème, mais peut-être aussi le mot travail, ou l'usage du mot travail, ou le travail tout court.
Dans votre vie, vous évoquiez juste avant la pause musicale que vous travailliez en tant que libraire au Théâtre de la Colline. Est-ce que c'était un travail, ça, pour vous ?
Alors oui, ça vraiment, j'appelais ça le travail. J'ai vraiment aimé le faire, mais c'était ça que je considérais comme le travail. Je ne sais pas exactement pourquoi, si ça tenait à la régularité ou aux horaires, ni ce que je mettais là-dedans. Il y a aussi pour moi toujours dans ce que j'ai considéré comme travail, ça a été des lieux très... souvent, quand j'arrive dans un lieu où je travaille, très peu de temps après, je rêve du lieu. Je rêve pas vraiment du travail, pas toujours du travail, mais du lieu, oui. Je me souviens, j'ai travaillé longtemps à l'UGC Georges V des Champs-Élysées. Et l'arrivée à la salle 4, le couloir menant à la salle 4, c'est quelque chose qui revenait tout le temps dans mes rêves, de façon très forte. Et en fait, de les trouver dans mes rêves me donnait l'impression, la sensation que j'étais à peu près à l'endroit où je devais être, ou que quelque chose, en tout cas, s'y jouait d'intéressant pour moi. Et le Théâtre de la Colline, ça l'a été très fortement. Ces espèces de grandes marches qui sont comme un gradin inversé qu'on doit descendre avant de trouver le hall et puis la librairie sur le côté. Oui, ça a été un lieu marquant, structurant. Enfin, peut-être que c'est ça que j'appelle le travail, tout simplement. C'est une structure extérieure à moi-même.
Est-ce que ce lieu, que beaucoup de Parisiens connaissent, est-ce que ce lieu, il a été aussi constitutif d'une pierre de touche d'écriture dans cet espace où on voit tant de corps défiler, tant d'expressions défiler, tant de couleurs, tant d'impressions ?
Oui, parce que c'est un vrai point de vue, et c'est drôle parce que je m'en suis saisi très très vite dès que je suis arrivé à la librairie du Théâtre de la Colline. Bon, il y a eu un premier spectacle, et puis il y avait un metteur en scène qui était en répétition, là, qui construisait encore le spectacle à venir dans la grande salle. Et je l'ai vu, il est venu vers moi, il m'a demandé quelque chose, et j'ai fait semblant de l'entendre, parce que je n'entendais pas du tout. J'entendais la première phrase du livre que je voulais écrire à partir d'une impression qu'il me faisait. Et c'était, la première phrase, c'était « Cette pièce le rendait fou ». Et ça a été la première phrase d'un roman qui s'appelle « Le metteur en scène polonais » qui a été publié chez Bourgois ensuite. Et je ne me suis pas renseigné, ce n'était pas documentaire. Je ne voulais pas voir la pièce de ce metteur en scène qui était quand même polonais. Mais bon, à part ces deux indications, je ne savais pas grand-chose de plus. Je ne voulais pas voir la pièce avant d'avoir terminé d'écrire au moins le premier jet, avant d'être allé au bout de mon histoire en tout cas. Mais c'est sûr que ça a été un lieu qui est venu toucher ou rencontrer quelque chose de l'écriture pour moi. Peut-être parce qu'on est un petit peu à côté, peut-être parce que aussi tout se joue finalement derrière les portes fermées. Et il y a quelque chose de très très beau, et même sur la question du travail, de voir les ouvreurs, les ouvreuses, une fois que tout le monde est rentré dans la salle, en attendant que tout ce monde en sorte, avec cette énergie particulière, la transformation particulière qui a opéré ou pas sur les spectateurs, les spectatrices. Moi ça m'a toujours intéressé, captivé même. Enfin, j'étais toujours curieux de voir dans quel état elle et ils vont sortir.
Il y a la scène, il y a la salle. C'est une citation de Paul Claudel, de Leki Albanon. Mmh. Et du coup, là, ce n'est pas la scène et la salle, c'est l'extérieur, la librairie, tu étais à De la Colline, et les gens qui sortent de la salle qui a constitué... un paysage qui faisait partie de votre quotidien.
Oui.
Est-ce que dans ce nom d'un animal, il y a un autre espace qui est aussi fait pour la scène, selon vous ? Est-ce que ce texte, il pourrait être livré à la scène ?
Alors, c'est une scène particulière, en tout cas, qui est la... Enfin, c'est un texte qui s'est écrit accompagné d'une metteuse en scène et chorégraphe qui s'appelle Laure Terrier, qui travaille pour la compagnie Jeanne Simone. Et qui m'a demandé, qui m'a passé une commande, c'est-à-dire qu'elle m'a invité, elle voulait adapter d'abord Chômage Monstre, et puis bon, ça s'est pas fait, puis on s'est quand même bien entendu, et on a décidé de se laisser un peu de temps, de faire des recherches ensemble, en fait, dans la rue, dans différents espaces publics, dans différents lieux, différentes villes, avec différents poèmes, différentes formes, des textes un peu compacts, des proses, des textes un petit peu plus aérés, différents interprètes aussi, des gens qui ont l'habitude de dire un texte, d'autres moins, et puis de voir comment le poème allait pouvoir s'accrocher à l'espace public, aux gens qui passent, aux bâtiments, aux gens qui passent pas, aux gens qui sont pas là aussi. Et qu'est-ce que ça fait de le chuchoter à l'oreille de quelqu'un ? Qu'est-ce que ça fait de le dire face à quelqu'un, derrière quelqu'un ? De le dire au micro, de le dire à voix nue ? Ça a été tout un... Oui, de le dire en bougeant, de le dire depuis très très loin. Ça a été un espace d'expérimentation pour moi très fort, très renseignant, très enrichissant pour l'écriture, et qui, je pense, est venu vraiment nourrir et apporter aussi des choses à l'écriture de ces poèmes. Notamment, c'est venu éclater quelque chose qui est le mot « je », le pronom « je ». En fait, pour une fois, je me suis dit « bah oui, je vais écrire « je », et puis ce sera dit par d'autres personnes que moi. » Et donc, en fait, je vais ouvrir mon jeu à d'autres. Et ça va être... Et qui ne seront pas forcément eux-mêmes. Ce n'est pas forcément écrire pour eux. Mais en fait, le mot « jeu » peut contenir vraiment plein de monde. Et oui, ça a permis des choses au poème. Ça a accompagné vraiment l'écriture. Mais c'est l'espace public, ce n'est pas la scène.
Des présents qui sont assez absents. On en a souvent dans nos paysages poétiques. Et Serge Gainsbourg parlait du poinçonneur des lilas.
Voici le poinçonneur des lilas. Je suis le poinçonneur des lilas, le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas. Y a pas de soleil sous la terre, drôle de croisière. Pour tuer l'ennui, j'ai dans ma veste les extraits du Reader Digest. Et dans ce bouquin, y a écrit que dégasse la coule douce à Miami. Pendant ce temps que je fais le zouave au fond de la cave, paraît qu'il n'y a pas de sous-métier, moi je fais des trous dans les billets. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous, des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des trous de seconde classe, des trous de première classe. je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous. Je suis le poinçonneur des lilas, pour invalide changer d'opérant. Je vis au cœur de la planète, j'ai dans la tête un carnaval de confettis, j'en ramène jusque dans mon lit. Et sous mon ciel de faïence, je ne vois briller que les correspondances. Parfois je rêve, je dis vague, je vois des vagues. Et dans la brume au bout du quai, je vois un bateau qui vient me chercher. Pour me sortir de ce trou, je fais des trous, des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Mais le bateau se taille. Et je vois que je déraille. Et je reste dans mon trou à faire des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous. Je suis le poinçonneur des lilas. Arts et métiers directs par le Valois. J'en ai ma claque de ce cloaque. Je voudrais jouer la fille de l'air, laisser ma casquette au vestiaire. Un jour viendra, j'en suis sûr. Je pourrais m'évader dans la nature. Je partirai sur la grande route, écoute que coûte. Et si pour moi il est plus temps, je partirai les pieds devant. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Y'a de quoi devenir dingue, de quoi prendre un flingue. Se faire un trou, un petit trou, un dernier petit trou. Un petit trou, un petit trou, un dernier petit trou. Et on me mettra dans un grand trou. Et je t'entendrai plus parler de trous, plus jamais de trous. De petits trous, de petits trous, de petits trous.
C'était Serge Gainsbourg, le poinçonneur des lilas. Et tout de suite, on écoute le petit coin lecture, la chronique jeunesse de la Nouvelle Bouquinerie.
Les filles, c'est l'heure du petit coin lecture.
J'arrive. Allez les crocros, les crococos, les croconiques. Le petit coin lecture sur les bords de la littérature.
On parle de quel livre aujourd'hui ?
Aujourd'hui, on vous parle de
Le Rocher Bleu
de Jimmy Liao. Un rocher bleu demeure paisiblement dans une forêt. Un jour, un coup de massue le fend en deux.
Une moitié de lui reste dans les bois, l'autre est emportée.
Que va devenir le rocher bleu, loin de sa forêt et de sa moitié ? Ce qu'on aime au petit coin lecture.
On aime les transformations du rocher bleu.
Emporté pour la première fois dans un atelier pour y être sculpté, le rocher ne va cesser d'être remodelé. Il sera tour à tour
un éléphant gris,
un oiseau rose,
un poisson violet,
une tombe,
un cœur.
Il vivra
dans un musée,
au bord de la mer,
dans le jardin d'une vieille dame,
dans un cimetière,
un orphelinat,
et même dans une prison.
On aime ressentir ce qu'il ressent.
Le rocher bleu est comme celle ou celui qui quitte son pays sans l'avoir choisi. À chaque fois qu'il se souvient de sa forêt et de ce qu'il y a laissé, une émotion forte le saisit.
Si forte qu'il éclate, il se brise. On aime dire que même quand tout change, il y a quand même quelque chose qui reste.
Et cette chose, c'est l'amour.
Le rocher bleu vit mille vies, et pourtant il n'oublie jamais sa forêt et sa moitié de rocher restée là-bas. Au fur et à mesure de ses métamorphoses, il se fait petit.
De plus en plus
petit.
Petit,
petit,
petit, petit, petit, petit, petit, petit, petit, petit.
Devenu grain de sable, il peut se laisser porter par le vent et retrouver enfin sa moitié. C'était Le Petit Coin Lecture, une chronique littérature jeunesse de
Julie,
Mathilde
et Marie. Aujourd'hui avec
Le Rocher Bleu
de Jimmy Liao, traduit du chinois par Chun Liang Ye, un livre paru aux éditions Hongfei Culture en 2022.
Le Petit Coin Lecture, la séquence chronique jeunesse de notre émission.
La Nouvelle Bouquinerie, Radio Campus Paris.
La Nouvelle Bouquinerie accueille Johanna Luisen. Bonsoir.
Bonsoir.
On va parler de votre livre, Les Fragments d'Hélène, paru chez Julliard. Première question, Johanna, quelle a été la première impulsion d'écriture ?
La première impulsion d'écriture, elle date d'il y a déjà 3 ans, finalement. Je me suis dit que ça serait peut-être l'occasion de revenir journalistiquement sur le meurtre de Hélène Rittmann par son époux Louis Althusser. En fait, c'est une histoire que je connaissais depuis des années comme plein de gens, c'est-à-dire en la connaissant de manière assez périphérique, avec, comme souvent, une espèce de focale sur l'auteur du meurtre plutôt que sur la victime. Ça m'était toujours resté un peu comme une espèce d'histoire pas nette et pas très, où il y avait forcément des choses à revoir. Et plus les années ont passé, plus cette espèce de nouvelle vague féministe a participé d'une sorte de droit d'inventaire, finalement, de plein d'affaires, de plein d'histoires. Cette histoire, elle a commencé à réémerger dans ma tête, quoi, en me disant mais en fait, il faudrait peut-être revenir dessus. Et en 2023, j'ai commencé à me dire, je sais que c'était aussi l'année où il y avait des commémorations pour les 20 ans du féminicide de Marie Trintignant. Et là aussi, pareil, il y avait toute une espèce de réflexion engagée sur la manière dont on avait parlé de toutes ces affaires à l'époque où elles ont surgi. Et donc voilà, j'ai commencé à me dire que c'était le moment de travailler là-dessus. Et ça a coïncidé avec la publication d'un livre d'un politiste québécois qui s'appelle Francis Dupuis-Déry. Et j'ai vu que paraissait donc au Québec, aux éditions du Remue-Ménage, un livre qui s'appelait Althusser assassin. Et je me suis dit, c'est formidable parce que vraiment, il fallait écrire ces deux mots ensemble. Et il fallait aussi avoir le courage de le publier, ce livre, vu quand même l'opacité et la nature du milieu dans lequel tout ça s'inscrit et se passe, puisque c'est le milieu normalien, parisien, intellectuel, philosophique, etc. Donc c'est quand même un milieu très particulier, très endogame aussi, très fermé. Et donc quand j'ai vu l'apparition du livre de Francis Dupuis-Déry arriver, je me suis dit là, il faut vraiment faire quelque chose. Et je me suis d'abord donc lancée sur ce livre, en me disant je vais en rendre compte. Et puis au départ c'était un petit article, c'est devenu un très gros article parce que au fil de mes recherches j'ai trouvé des gens qui l'avaient connu, etc. Et ce que dressait déjà Dupuis-Déry dans son livre, c'est-à-dire c'est un féminicide et pas du tout ce qui a été présenté comme une espèce de coup de folie du philosophe qui aurait surgi dans la nuit de nulle part, etc. Pas du tout, c'était quelque chose qui, comme tous les féminicides, s'inscrit dans des relations de domination, de pouvoir, femmes-hommes, asymétriques et de possession de l'autre, puisque les féminicides sont des crimes de possession. Et donc en rencontrant des personnes, en allant sur les traces des derniers jours d'Hélène, je me rends compte que effectivement, elle avait évidemment pas du tout envie de mourir, pas du tout, elle n'était pas du tout dans un récit de demander une mort que Louis Althusser aurait bien voulu lui donner. Enfin, tout ça était évidemment complètement faux. Et que par ailleurs, effectivement, se dessinait en creux une histoire comme malheureusement on en voit tous les jours dans les journaux. Mais sauf que dans certains milieux, d'autres récits et la notoriété de l'auteur du meurtre masque un peu tout. Et là, ça a été le cas. Donc j'ai raconté tout ça dans un article. Et puis l'article a paru, il a fait quand même un peu de bruit parce que mine de rien, on l'a mis en une de Libération, ce qui n'est pas non plus rien dans ce que ça a pu signifier pour la gauche. Et à partir de là est arrivée l'idée de raconter la vie de cette femme, d'Hélène, dans un livre. Et donc c'est pour ça que je me suis lancée dans l'écriture de ce livre.
Ce livre qui est très important pour tout le milieu social que vous venez de décrire. Moi j'ai une question, est-ce que l'intime n'est pas politique pour les gens de gauche, ou autrement formulé, est-ce que l'intime c'est lors du fait divers encore pour une sociologie des gens qui sont orientés à gauche selon vous ?
Bah oui, je pense que, en fait, moi, je pense qu'il y avait de toute façon une espèce d'énorme, une énorme réticence à embrasser certaines causes et certaines réflexions. Enfin, je veux dire, le féminisme n'a pas vraiment imprégné la gauche et la gauche puissante. Enfin, je veux dire, la gauche les intellectuels qui avaient du pouvoir, ceux qui étaient les maîtres à penser. Enfin, en fait, ça restait, tout ça restait sur des schémas extrêmement archaïques qui n'ont absolument pas remis en cause, parce qu'évidemment, c'était une question de privilège. Mais globalement, tous ces récits-là, y compris mai 68, d'ailleurs, c'était des récits d'hommes blancs, évidemment, mais ça a été des récits masculins avec... on sait d'ailleurs à quel point la question des femmes dans ces... Enfin, elles ont parlé quand même. Après, il y en a quelques-unes qui ont pris la parole, Isabelle Saint-Saëns, etc., dans les mouvements, mais elles ont été quand même assez minoritaires et elles n'ont pas été les plus entendues et les plus mises en avant. Donc, tout ça, en fait, toute cette émancipation-là, elle a évidemment, elle n'a regardé que ses propres intérêts. Et donc effectivement, il y a pas du tout d'intérêt, y compris au sein de mon propre journal d'ailleurs, dans ses écrits, etc. Enfin, il y a quand même pas, il y a pas une grande appétence pour les questions féministes et il n'y a pas du tout d'articulation à l'époque. Entre les luttes sociales et politiques diverses et la question du genre n'apparaît pas, en fait, ou elle est niée, etc., et on repose sur des choses archaïques. Et en fait, c'est un peu le cas dans ce monde-là qui a été le monde d'Hélène, qui était un monde éminemment masculin. Tout est extrêmement masculin, les courtisans, admirateurs d'Althusser, etc., enfin, il y a quasiment que des hommes. Et des hommes qui ont des visions extrêmement, et d'ailleurs on en voit pas mal dans mon livre, mais qui disent des choses profondément sexistes, misogynes, etc. Donc oui, ça traverse toute sa vie, ça traverse, et c'est toujours, moi je trouve, on a toujours, quand on est une femme de gauche, on se sent toujours un peu trahie, en fait. Je pense qu'elle a sans doute été trahie, Hélène.
Tout à fait. Alors si on revient plus précisément à l'existence d'Hélène Rittmann, qui est une femme incroyable, quand on la lit sous votre plume, résistante, penseuse, et encore beaucoup d'autres événements marquants qui pourraient du coup marquer sa vie par des qualificatifs et aussi des rapports pour la voir tout simplement vivre. Moi j'ai une question, c'est pourquoi elle est restée selon vous, si on remenait l'enquête ensemble là, en quelques instants, même si ça va être difficile?
Bah, c'est dur de dire pourquoi on reste, parce que forcément vous allez toucher déjà à des mécanismes d'emprise qui sont très complexes. Et puis il y a des tas de raisons qui, moi je pense que, enfin, de toute façon, ce que j'ai lu de ses lettres et de ses écrits en général, et c'est qu'elle est, elle aimait profondément cet homme. Donc je pense que ça, malheureusement, on peut aimer des gens qui nous font du mal. Ça malheureusement ça arrive. Donc je pense qu'elle reste parce qu'elle est profondément attachée à cet homme toute sa vie, qu'elle est vraiment dans une démarche d'accompagnement de tas de choses, probablement aussi d'aidante, hein, parce que c'est quelqu'un qui alterne quand même régulièrement les séjours en institution spécialisée et puis revient chez lui. Mais enfin voilà, tout est un peu comme ça, il se voit pas forcément beaucoup, hein, finalement, mais elle est toujours là, elle l'accompagne toujours, et puis elle est très en demande. Moi, ce que j'ai beaucoup vu dans les lettres, c'était une femme amoureuse qui lui courait après un peu, en fait. Et puis lui, qui était beaucoup plus volatile, beaucoup plus avec des amantes ou des histoires, des maîtresses diverses, des choses, etc., qui lui faisaient du mal à elle. Donc ça, malheureusement, alors il y a des choses qui sont très systémiques là-dedans, parce qu'effectivement, dans cette asymétrie que je décris, qui est typique du patriarcat, il y a des mécanismes qui font que on court après des gens qui nous font du mal, et en fait, sans forcément être conscient, on perpétue des choses, mais c'est évidemment pas de notre faute, évidemment. Et puis on reste parce qu'on espère que ça va se passer mieux. Enfin, souvent, les gens qui sont avec des personnes qui sont violentes ou qui les font souffrir, elles attendent le moment où ça se passera bien, en fait. Dans les violences conjugales, on voit beaucoup ce truc-là. On se dit, il va aller mieux et tout va aller bien, et on va retrouver l'état un peu initial de notre rencontre où les choses étaient bien. Enfin, voilà, et on veut retrouver cette espèce d'âge d'or qu'on a perdu et qu'on ne retrouvera jamais, en fait. Mais on cherche désespérément, quoi. Et on pense que ça va arriver un jour, que ça va revenir. Donc voilà, je pense qu'il y a des tas de raisons qui font qu'elle est restée, Mais en fait, moi, ce qui m'a troublée dans cette histoire, c'est qu'on a toujours raconté ce meurtre comme étant effectivement le coup de folie du philosophe sans jamais l'expliquer autrement que par le coup de folie du philosophe. C'est-à-dire en se disant pas qu'il y avait quelque chose de systémique dans le fait qu'un homme tue son épouse, en fait. Et que souvent, les raisons, c'était des raisons qui étaient liées au patriarcat, en fait. Ça, c'est quand même au-delà de la question de pourquoi elle est restée. Enfin, pourquoi, à un moment donné, quelqu'un qui souffre de bipolarité exprime sa violence sur la personne qui partage sa vie, par exemple.
On rappelle aux auditeurs, je me permets, Johanna, que c'était Louis Althusser qui était bipolaire. C'est lui qui fait des voyages en hôpital psychiatrique, hein, parce que souvent, les figures de la femme folle, Pauline Chenu en a très très bien parlé dans son dernier ouvrage. Donc vraiment, là, c'est lui qui a des graves problèmes qu'on appelle aujourd'hui, de façon euphémisée, de santé mentale. Donc c'est un homme déséquilibré, violent, et que vous l'avez très très bien dit tout à l'heure, elle est aidante toute sa vie auprès de cet homme, qui est un homme branlant, en fait, complètement... handicapé par lui-même, en tout cas parce qu'il habite, et handicapant pour elle.
Effectivement, c'est un cauchemar. Ce qui lui arrive à lui est un cauchemar, et c'est un cauchemar pour elle qui est aidante, et qui est à côté de lui, et qui subit énormément de choses. Mais en fait, encore une fois, moi j'ai eu beaucoup de rencontres en librairie où on m'a dit, mais la bipolarité, parce que je veux aussi dire que les bipolaires ne tuent pas nécessairement, en fait. Parce qu'il y a quand même aussi beaucoup de choses, d'idées reçues sur la question de la santé mentale et notamment sur la bipolarité. Mais il n'y a pas une violence systématique chez les personnes bipolaires. À un moment donné, il y a peut-être quelque chose qui est décorrélé entre la bipolarité de cet homme et le fait qu'il ait tué sa femme, en fait. Et ça, on ne l'a jamais interrogé. En fait, on ne l'a pas interrogé du tout parce que de toute façon, cette histoire n'a été racontée que sous le prisme de le coup de folie du philosophe. Donc ça serait sorti de nulle part, il n'y aurait eu aucun signe annonciateur, c'était uniquement lié à sa santé mentale et pas du tout pour les raisons pour lesquelles des hommes tuent des femmes. Mais en fait, on est en droit de se dire peut-être pas, en fait.
Et oui, on est en droit de se dire peut-être pas. On invite en tout cas tous les auditeurs et les amoureux de ce type de travaux à vous lire. Ça s'appelle Les Fragments d'Hélène, paru aux éditions Julliard. Je vous remercie chaleureusement d'avoir été présente avec nous.
Merci beaucoup.
C'était saisissant, cette musique envoûtant, c'était « Rien ne se passe » de la poétesse Laure Gauthier en présence de Octo.
La nouvelle bouquinerie, Radio Campus Paris.
Et nous, nous sommes toujours avec Antoine Mouton pour parler de son travail, sa langue et notamment de nom d'un animal. Et on va écouter un extrait.
J'ai perdu mon travail. J'ai bien cherché. Je ne le retrouve pas. Comme si le seul véritable travail avait été d'enfouir et perdre trace. Employé pour disparaître. Embauché pour faire un trou et s'y trouver précipité. Le travail m'est tombé des mains, où avais-je la tête? Faut croire que ça récalciterait à deux ou trois endroits du corps. Mais si j'ai regimbé, c'était à mon insu. Dans l'ensemble, j'étais docile, dans le détail, c'est plus mitigé. J'ai l'estomac factieux, le poumon séditieux, la rate agitée. Il suffit de quelques organes rétifs pour créer une zone dissidente. Faire efface. Fabriquer dissipe. Obéir dissous. Se soumettre distrait de soi. S'appartenir? Pourquoi? Je m'étais assis sur mes exigences. J'avais sapé mon désir, rhabillé mes attentes, coiffé mon enthousiasme. Aucun rêve n'avait jamais franchi la porte de ma chambre, aucune colère n'avait traversé les parois de mon ventre. Je laissais le monde régner en moi, et j'allais voir ailleurs, si je pouvais être libre hors de moi. Mais j'étais hors de moi, à défaut d'être libre. Or, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait avec amour. Ça en dit long sur l'amour. J'ai fait mes devoirs, j'ai fait l'Italie et les courses, j'ai fait des histoires et des vagues, j'ai fait la vaisselle et la gueule, le mariole et le pied de grue, j'ai même fait le mort en attendant de trouver mieux. N'y a-t-il donc rien d'autre à vivre que faire? Que faire? Et comment le faire? Et qu'est-ce que je peux en dire? Alors que bien souvent j'ai été tenu d'opposer faire et penser. Vivre et parler. Bonjour. Je suis ministre et je cherche une contrepartie morale à l'absence d'emploi. Oui, une contrepartie morale à l'absence d'emploi. Je vais tous vous en travailler.
C'était un extrait de votre dernier recueil, Nom d'un animal, je vais tous vous en travailler. On entend votre langue qui est travaillée par une création de langage, en travailler, être mis au travail, en tout cas c'est comme ça qu'on pourrait le comprendre.
Oui, oui, ah ben vraiment, enfin, c'est-à-dire... Alors c'est drôle parce qu'il y a cette création de langage qui est en travaillé, mais juste avant, la contrepartie morale à l'absence d'emploi, c'est une citation réelle et directe d'un ou d'une ministre, je ne sais plus exactement, du travail. C'est-à-dire que j'avais l'impression que quand même il fallait... Alors déjà, dire, enfin, je voulais prendre le risque de mettre la parole... d'une ministre dans les poèmes, voir ce qu'il arrivait au poème et comment faire pour que le poème reste... enfin, pour que le poème ne perde pas entièrement le pouvoir dans la lutte avec les mots du ministre. Et donc, je me suis dit, oui, je vais répéter cette phrase pour qu'on l'entende, pour qu'on entende son sens, son aberration, la contrepartie morale à l'absence d'emploi, c'est-à-dire c'est quand même une aberration. Et ensuite, je me suis dit, oui, alors je vais le traduire aussi avec un mot inventé qui est « en travailler ».
Est-ce qu'on pourrait écouter un second extrait ?
Si j'avais soulevé le mot « travail », j'aurais trouvé mon père. Mon père vivait sous le travail. Quand il rentrait à la maison, on ne le voyait pas. On ne voyait que le travail. La souffrance due. La fatigue due. L'aliénation due. Les repas avec mon père ressemblaient à un travail. Les promenades, les dimanches, la vie. Mon père travaillait tout ce qu'il touchait. Il travaillait la pelouse. Il travaillait la télévision. Il travaillait même la digestion. Si on voulait l'embrasser, on embrassait le mot travail. Et si on voulait vivre, on devait vivre comme lui, en travaillant. Et puis un jour, mon père a perdu son travail. C'était déjà arrivé souvent, sauf que cette fois, il n'en a pas retrouvé un immédiatement. Alors il a chômé. Il faisait le chômage sur le canapé, au milieu de la maison. Il chômait en fumant, en mangeant des michocos, en buvant une bière, deux bières, en finissant le paquet de michocos. Puis mon père a fait le chômage de la bière. Il a démissionné des cigarettes. Il a continué les michocos. Il est devenu gros. Sur le canapé, sans son travail, on le voyait bien désormais. Il était tout le temps là, inquiet, frustré, là dans l'angoisse. Je l'adorais. Je tapais sur son ventre et je l'appelais « Monsieur Panda ». Monsieur Mouton sans son travail, Monsieur Panda. Le chômage en sauvage.
Le chômage en sauvage pour un mouton, est-ce un paradoxe?
J'avais déjà bien compris cette question de l'ensauvagement de l'absence de travail ou de la perte du travail. C'était quelque chose que j'avais exploré au moment de Chômage Monstre, où j'écrivais Chômage Monstre, quand j'ai quitté justement le travail au cinéma des Champs-Élysées, au Georges V. Et en fait, j'avais fait un rêve peu de jours après ma démission, le début de mon chômage. J'avais rêvé que je quittais Paris à pied, en suivant la Seine jusqu'à la mer. Et puis, j'étais au chômage. Alors, j'ai décidé de le faire pour de vrai, pour voir ce qu'il arrive aussi à un corps qui n'est plus employé, à ce corps que je retrouvais sans emploi, en fait. Comment, moi, j'allais l'employer, ce corps? Est-ce que j'allais l'employer? Est-ce que j'allais le faire travailler? Qu'est-ce qu'il allait découvrir, ce corps, comme rapport au temps, rapport au monde, rapport à l'espace nouveau? Peut-être rapport au rêve, en fait, aussi. Je pense que c'est le chômage, à ce moment-là, a permis de suivre un rêve, réaliser un rêve au sens littéral du terme, quoi.
Merci beaucoup, Antoine.
Merci beaucoup.
Merci pour cette belle soirée, cette bonne soirée. On vous invite à lire Nom d'un animal aux éditions La Contre-Allée. La Nouvelle Bouquinerie, c'était réalisé ce soir par Antoine. On remercie chaleureusement un autre Antoine ce soir. Je remercie également Marie, Mathilde et Julie pour le petit coin de lecture et Johanna Luyssen qui était avec nous tout à l'heure. Bonne soirée.
La Nouvelle Bouquinerie, l'émission des littératures et des poésies sur Radio Campus Paris. Une émission pour écouter des autrices et des auteurs qui nous éveillent. La Nouvelle Bouquinerie, présentée par l'écrivaine et poétesse Mirle.